Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On commence la semaine avec un sujet qui vous touche directement et on va parler de travail et surtout de la difficulté de se retrouver un emploi après avoir fait un burn-out. Vous savez qu'il y a plus de 40 % des Québécois à qui on a posé la question qui ont avoué déjà avoir souffert d'un épuisement professionnel. C'est un sondage Léger qui nous révèle ce chiffre assez, assez important. Moi, quand j'ai vu ça, plus de 40 %, c'est quasiment un Québécois sur deux qui dit qu'il a été épuisé professionnellement et qui a dû même se retirer temporairement du travail à cause de ça. Puis en même temps, quand on regarde le sondage Léger au Canada, c'est encore pire. Le résultat est encore plus sidérant. On dit que c'est près de 60 % des travailleurs qui ont été à un moment ou l'autre de leur carrière épuisés par le travail qu'ils faisaient. Moi, je me disais ce matin, là, quand on regarde ces chiffres-là, ça pose forcément un problème là, et surtout la question importante, il faut qu'on se la pose. Comment ça se fait que notre travail nous épuise comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'au travail, on se met dans un état tel ou on nous met dans un état tel qu'on doive se retirer temporairement? Puis certaines fois, là, c'est long. Là. Des fois, c'est des années. Et pour certaines personnes, ça peut même durer très, très, très longtemps. Il y a même des gens, si c'est votre cas, vous, bien sûr, on est là pour vous entendre ce matin et entendre comment vous avez vécu ça. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été capables de retrouver un emploi par la suite, même de retourner dans une situation de travail. Alors, on va parler de ça. Je vous présente mes invités pour en discuter. André Étu est avec nous. Il a déjà fait un burn-out. Ça fait un moment, mais un ça bon a moment. Été... Oui, ça fait un bon moment, mais c'est un moment que dont vous vous souvenez, André.
Absolument, hein? J'espère que je n'oublierai jamais.
Ouais. Pourquoi vous espérez ne pas vous...
Ça m'instruit.
C'est vrai?
Ça me dit comment être aujourd'hui. Ça me fait me surveiller. J'ai un gendarme qui me surveille pour ne pas refaire un tel épuisement.
On va bien sûr entendre votre histoire. Lucie Dubé est avec nous. Elle est directrice générale de l'organisme Midi 40. Bonjour, Lucie.
Bonjour.
Un organisme qui s'occupe bien sûr de réinsertion des gens sur le marché du travail après l'âge de 40 ans. Qui reste un âge très jeune, finalement.
Absolument.
Hein, faut le dire. J'ai rendu que c'est 40, la difficulté. Imagine ceux qui ont 60, 65, mon Dieu. Décourageant. Guillaume Desnoyers est avec nous. Il est recruteur professionnel, associé principal chez Desnoyers Ressources et Conseils. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Isabelle.
On parle souvent de travail. Et en ce qui concerne le burn-out, Guillaume, il faut le dire, c'est encore beaucoup un tabou. L'épuisement professionnel, il y a encore beaucoup de gens qui le cachent, le fait d'être épuisé au travail.
Oui, tout à fait. Si on se rappelle, pas plus tard que l'automne dernier, le gouvernement faisait une grande campagne de sensibilisation. Là-dessus, il faut croire qu'effectivement, il y a encore pas mal de tabous. Puis on le voit, hein, je veux dire, au fur et à mesure que le rythme de vie s'accélère, ben il y a de plus en plus de gens là, qui deviennent, on parle de 40 % de 57 % au Canada, qui éprouvent cette condition-là.
Mais il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de croyances, par exemple, qui sont tenaces à propos du burn-out. Et une de celles-là qui fait que les gens ont de la misère après un burn-out à se replacer ou même à retourner au travail, revoir ton même employeur puis leur dire, puis lui dire, bon, ben moi, j'ai eu un burn-out, mais j'aimerais ça revenir. En général, qu'est-ce que les employeurs disent? Est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil, Guillaume?
Je pense que ça dépend toujours. Hein. Si c'est l'employeur actuel chez qui on retourne, c'est une situation. Mais si on a quitté notre emploi en cours de route, c'est un peu différent. Je pense que la première préoccupation des employeurs, ça va être la fragilité momentanée de la personne qu'ils ont en face d'eux. À savoir,
on n'aime pas ça, gérer du monde fragile. Hein?
Ben, je pense qu'on n'aime pas gérer un risque de récidive, mais je pense que de plus en plus, je pense que l'information, la sensibilisation fait son effet. Mais il faut penser qu'effectivement, quand on va entendre, je pense, les histoires de vos auditeurs...
Mais justement, celle d'André, commençons par vous. Votre histoire, André, es-tu, ça fait un bon moment, on le disait, que vous avez fait un burn-out. Vous avez dû vous arrêter pendant près d'un an à la suite de cet épuisement. Racontez-nous un peu la genèse. Qu'est-ce qui vous a amené à cet état d'esprit mental et physique aussi?
Je pense qu'une des caractéristiques des gens qui font une burn-out, et j'en suis, c'est d'être très dédié au travail, très passionné même par le travail, et on accepte volontiers d'en prendre autant qu'on pense. Puis, tant qu'on n'a pas fait un épuisement professionnel, on se pense invincible, je pense. On est capable d'en prendre, puis on en prend. Puis, pire que ça, quand l'épuisement commence, je crois qu'au cours des années, ça prend quand même plusieurs années à s'épuiser. Là. Il faut, c'est ça, on ne s'épuise pas d'une fin de semaine. C'est parce qu'on a surchargé notre système pendant plus qu'un an, deux ans. Et plus on s'approche du moment critique où vraiment, là, on est dans un état d'épuisement, plus On n'a pas l'air épuisé, c'est pas ça qui se paraît. C'est qu'on en prend davantage. Mm-hmm. On s'ajoute des... On est dans un... On devient drogué à l'adrénaline qui nous... Mais quand on arrête, on va voir un médecin et on dit « là, ça va pas ». Puis ce qui nous aide à dire que ça va pas, c'est les proches autour de nous, qui eux autres nous connaissent bien, puis ils disent « non, ça va pas, là, voyons. Mm. » c'est tant pas mal. Puis le sommeil...
Vos proches, vous le disiez?
Oui.
Ils disaient quoi?
Qui me reconnaissaient plus tant que ça, qui me voyaient, les autres percevaient la nervosité ou l'anxiété avec laquelle je vivais maintenant, qui n'avait pas été mon propre dans le passé. J'étais quelqu'un qui avait fichait pas de signes tellement d'anxiété parce que je portais des grandes responsabilités, mais j'étais heureux là-dedans. Au bout, mm-hmm. J'adorais ça.
On carbure au stress, hein. C'est l'ennemi public numéro un dans tout ça, là. C'est le stress.
Ouais. Mais ça peut être, tu sais, le stress. J'ai souvent fait des entrevues là-dessus avec des spécialistes, puis il y a du bon stress.
Oui.
Il y a du stress productif, puis il y a du stress qui te mène justement là où André est allé.
C'est quand on n'est plus capable de suivre le rythme et de répondre à la demande que le stress finit par s'accumuler. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a du stress qui nous fait avancer, ça c'est clair.
André, vous aviez des responsabilités importantes. Vous étiez directeur d'un organisme, c'est presque cocasse finalement, parce que vous étiez directeur d'un organisme d'intégration au travail et d'aide à la recherche en emploi pour les jeunes. Donc
oui,
vous étiez dans le milieu du travail.
Oui.
Ça a commencé 4 employés sous votre coupe, puis ça a fini que vous en gériez quasiment 80?
Oui, d'une façon indirecte, on était fiduciaire d'un paquet d'organismes. On s'investissait dans une multitude. J'étais membre de 6 conseils d'administration et plus le reste.
Ouais.
Fait que, et j'étais passionné de tout ça. S'ajoutent toujours des préoccupations qui sont personnelles. Un enfant, les enfants viennent au monde, tout ça, ça s'ajoute, ça s'additionne. Il y a des vagues de ça va bien, ça va moins bien. Et tout ça finit par faire la dose qui... au-dessus de nos possibilités. Et c'est là que l'épuisement commence à se mettre en place.
Vous, quand vous avez commencé à vous sentir moins le André habituel...
Oh mon Dieu, ça a été loin. Ça a été quasiment à la fin de tout, avant que je prenne conscience qu'il y avait vraiment un problème.
Tout le monde le voyait sauf vous.
Exact. Je dirais ça. Il ne voyait pas nécessairement que j'étais épuisé. C'est parce que je ne me montrais pas des signes d'épuisement. J'étais très actif, hyper actif même. Et c'était là qui était l'origine. C'est juste que j'avais l'air un peu plus stressé, mes humeurs, j'étais un petit peu plus chocatif. Il y avait plusieurs symptômes qui n'étaient plus le André que tout le monde avait connu. Moi de même. Mais moi, je m'en apercevais pas trop. Jusqu'à temps que je le sente que je suis fatigué et que je me décide d'aller voir un médecin, lui, il l'a vu. Il l'a vu tout de suite.
Il l'a vu tout de suite?
Tout de suite. Et il l'a vu solide. Là. Parce qu'il m'a tout de suite signé un contrat de congé de 6 mois. Il disait que j'étais sévèrement atteint. Là. Puis ça m'a fait tellement de bien. Ça a été émouvant.
Mais
ça.
Sur le coup, ça a dû vous faire tout un choc, par exemple?
Un magnifique choc. Un magnifique choc. Je me suis mis à fondre en larmes. Et puis, je venais d'avoir une solution à un problème que j'occultais. En même temps que la solution apparaissait, le problème réapparaissait. Mm-hmm. Ça me disait, je prenais conscience que, oh, que j'ai été content d'avoir rencontré ce médecin-là, puis que lui l'a vu.
Comment il vous l'a dit, le médecin? Vous en souvenez?
C'est émouvant pour moi de retoucher là. Ça va être difficile de vous le dire sans avoir des émotions. Mm. Parce que...
On peut avoir des émotions.
Ouais, mais c'est quand même. Fait qu'il m'a juste dit, il m'a arrêté de parler. J'étais une machine à parole, fait que pendant un bout de temps, il m'a laissé parler. Un bon petit bout de temps. Il m'écoutait avec intérêt. À un moment donné, il m'a fait signe avec la main d'arrêter de parler. Il a laissé passer un moment de silence. Il m'a dit, André, vous êtes brûlé, épuisé. Mais je ne me rappelle plus des mots exacts, je pense que je les ai occultés. Mais ça m'a frappé fort, ça m'a été bien, bien émouvant d'entendre ça. Je me suis, comme je vous disais tantôt, je suis fondu en larmes, mais ça faisait du bien. Moi, j'ai commencé à me réparer dès là. Et tant qu'à être à parler du phénomène, parce que c'est un épuisement professionnel, vous utilisez l'expression burn-out avec laquelle je ne suis pas très confortable, elle est souvent associée à une dépression nerveuse. Et curieusement, je n'ai pas l'impression d'avoir fait aucune dépression nerveuse, pas là en tout cas, peut-être ailleurs dans ma vie, mais pas à ce moment-là du tout. Je n'étais pas en dépression. J'étais en épuisement professionnel et c'était physiologique. Suite au congé, dès le moment où j'ai commencé mon congé, j'ai dormi pendant 1 mois, jour et nuit. Je ne me rappelle plus de ce qui est arrivé ce mois-là, sinon que je dormais. Il paraît que je me levais pour aller manger, mais c'était tout à peu près. Rien, j'étais pas là. Burnout. Burnout, épuisé, zombie. Mais c'était magnifique, c'était bien. Là. Je ne m'en plains pas de ça. Ça a été phénoménal. Puis quand j'ai, après ça, au bout d'un mois, comme j'étais un hyperactif, j'avais hâte de trouver quoi faire, puis en avant masse. Fait que je me lance dans une tentative de ramasser des branches qui avaient été coupées. Je suis venu pour le faire, puis il y a eu de la résistance. Et à peine essayé, encore une fois, je me sens complètement vidé, épuisé, là, puis je suis incapable de faire un job aussi simple que ça. C'était physique, encore une fois. Puis là, je me suis aperçu que je pouvais à peu près rien faire, mais ce qu'il y avait de merveilleux, c'est que j'avais la permission sociale de ne rien faire. C'est la première fois de ma vie que je me retrouvais avec une autorisation de rien faire, que j'avais un papier du médecin qui me le permettait, que je bénéficiais merveilleusement d'une assurance salaire qui faisait que financièrement, je n'avais pas ce stress-là additionnel. Et j'ai pu... secrètement, j'étais heureux. J'ai été heureux. Durant tout le temps de rétablissement, j'ai goûté à ne rien faire et j'ai adoré ça. Pourtant, j'étais hyperactif et aujourd'hui encore, j'ai retrouvé mon... Dès que l'énergie est là, moi, je suis pas capable de rester assis. Fait que, mais là, l'énergie n'était pas là, puis elle revenait pas. Ou bien non, si elle revenait, c'était juste un petit clin d'œil pour me dire, c'est pas fini.
Mais c'est fou ce que vous avez dit quand même, André. Vous avez dit, là, j'avais la permission sociale de ne rien faire.
Oui, madame. Ça me le prenait.
Mais c'est peut-être là le nœud du problème, dans le fond. C'est qu'on se permet pas, parce que socialement, c'est pas correct de s'arrêter. C'est pas correct d'avoir de prendre du temps.
Puis on est tous dans une culture, là, la plupart des gens dédiés, de très dédiés. Donc, il y a tellement à faire. On est tellement d'accord à le faire aussi. Puis on, si on est dans une bonne position pour le faire, on le fait de bon cœur. On se dévoue. On se dédie. Ça fait que là, d'arrêter de faire notre part pendant un certain temps, parce qu'on n'est plus capable. Ça, il faut qu'être plus capable de le faire. Ça prend un burn-out ou un épuisement pour s'arrêter.
Moi, je la trouve très touchante, votre histoire, André.
Ah ouais?
Franchement,
ouais.
Évidemment...
Merci de partager ça avec moi.
Oui, vraiment, parce qu'on sent toute la charge émotive encore après toutes ces années. Et puis, il y a des belles leçons dans ce que nous dit André et Lucie, où vous êtes confrontés régulièrement à des gens qui viennent vous témoigner toutes sortes de choses très émotives par rapport au travail.
Absolument. Hein. Puis, quand j'écoute André, je me dis, il l'a pris du bon côté, c'est-à-dire qu'il l'a pris, bon, enfin, j'ai la permission d'arrêter. Mais il y a quand même certaines personnes qui le vivent comme une culpabilité. Mm-hmm. Je suis coupable, je suis plus bonne à rien, je suis en dehors du marché. Ça devient extrêmement difficile. Je trouve que la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas seul. S'il y a 50 % des gens ou 40 % des gens qui vivent en cours de carrière un épuisement, ceux qui le vivent en ce moment, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important parce que quand on est seul chez soi, on est seul. On est seul au monde. Donc, de penser qu'on n'est pas seul, ben déjà, ça peut...
C'est le meilleur facteur de sensibilisation.
Oui.
On va s'arrêter ici, si vous voulez bien. Justement, on rappelle ce 40 % de Québécois qui ont déjà avoué avoir fait un burn-out, avoir senti un épuisement professionnel. Vous savez qu'on dit, puis nous, c'est une statistique qu'on utilise souvent pour vous trouver des sujets. En général, quand on parle de santé, là, de santé publique, on dit que quand ça touche plus de 15 % de la population, ça représente un vrai problème de santé publique. Imaginez quand c'est 40 % 57 % dans l'ensemble du pays. C'est plus qu'un problème de santé publique, là. C'est un grave, sérieux enjeu de santé publique, puis il faut vraiment s'en occuper. Donc, ce matin, on essaye de voir comment on peut vous aider. Ceux qui vivent ça en ce moment, bien sûr, appelez-nous, dites-nous comment vous vous sentez, est-ce que ça va mieux, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des progrès ou non. Si vous l'avez déjà vécu aussi, cet épuisement professionnel, on va essayer de voir si les symptômes sont tous les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 et partout sans frais au Québec. Le 1-866-790-9850. À tout de suite. Alors, Pauline m'écrit qu'elle est très touchée par le témoignage d'André. Elle me demande de rappeler votre nom. André, es-tu? Et notre invité, entre autres, qui a déjà fait un burn-out et qui a trouvé que c'était excessivement éducatif. Faut s'en souvenir de pourquoi on a éventuellement, qu'on est tombé au travail. C'est comme quasiment être tombé au combat. Là. Mais le travail devrait pas être ça. Hein? André, ça devrait au contraire être une source de plaisir. Vous le disiez vous-même, vous étiez un passionné.
Ben, ça l'a été jusqu'à la fin. Il n'y a pas une fois que le travail est devenu désagréable. Ce que ça nous instruit, c'est qu'on a une limite. Puis ça vaut la peine d'en être conscient, puis d'admettre qu'on l'est, puis de la découvrir, cette limite-là. Elle n'est pas nécessairement... c'est une multitude de facteurs qui va faire que durant une période de notre vie, la limite n'est pas à la même place qu'elle était l'année d'avant ou quelque chose du genre.
Fait qu'on vous a d'abord... Votre médecin vous a donné un premier arrêt de travail de 6 mois.
Oui.
Et ça finit par s'étirer jusqu'à 1 an. Là.
Oui. Ouais. Et on a pris la décision de ne pas retourner à l'endroit où j'étais. J'ai quitté le travail d'où je m'étais épuisé.
Est-ce que vous entendiez, est-ce que des collègues vous ont appelé pendant ce congé forcé? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit, « Hey André, on est avec toi. »
Je suis resté en contact avec... Oh, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait toute une multitude de dynamiques qui se produisaient à cette époque-là, qui étaient peut-être... la conséquence de l'attitude que j'ai eue au cours des 2 dernières années. Dans tous les cas, j'acceptais, je pense que c'était très sage que je sois pas en contact avec les gens du travail. Il fallait que je me redécouvre, moi.
Ouais. Pensez-vous qu'il y a des collègues qui ont pu penser, ouais, ben là, André, il y avait déjà 6 mois, là, il y a 1 an, là, il abuse, là, il étire un petit peu sur les vacances. Pensez-vous qu'il y en a qui ont pensé ça?
Ça fait aucun doute qu'il y en a qui ont pensé ça, mais ça leur appartient, et tant pis pour eux, parce que si eux-mêmes, à une telle aventure lui arrivait, c'est ce qu'il penserait d'eux-mêmes.
Ouais, parce que Guillaume Desnoyers, mon invité qui est recruteur professionnel, tu parlais tout à l'heure d'entrée de jeu de la campagne du gouvernement, puis il y avait ça là-dedans, c'était genre...
Tout à fait.
Il n'est pas rentré, il est supposé être en burn-out,
Tout à fait, puis je pense qu'au fur et à mesure qu'on est touché par ça, de près ou de loin, je pense qu'on devient un peu plus conscient.
Puis... Mais il faut avoir été touché.
Oui, je pense que oui. Puis d'ailleurs, moi, parmi les cas que je connais autour de moi, là, les plus sévères, c'est des gens qui avaient ce genre de préjugés-là.
Ah ouais.
Pour qui la performance faisait foi de tout. Puis quand ils sont tombés solidement. Là.
Ouais. On est avec nous Audrey, qui a déjà fait un burn-out. Bonjour, Audrey.
Bonjour.
On vous écoute. Comment vous le vivez aujourd'hui? Est-ce que c'était il y a longtemps?
En fait, moi, j'ai été en arrêt de travail en septembre 2017. Ça fait 10 ans que je travaillais pour une grande institution financière. Puis, c'est sûr que j'étais vraiment dans l'optique de faire mes preuves pour percer, pour avancer ma carrière. Puis, à un moment donné, je voulais tellement pas tomber en arrêt de travail que je consultais un psychologue. J'ai vraiment tout essayé pour pas en arriver là parce que, justement, il y avait des gros changements organisationnels puis je voulais ma place. Mm. À un moment donné, ça pouvait juste plus. Mon corps ne répondait plus au point où j'avais de la misère à me lever. Je suis tombée en dépression puis en épuisement total. Puis ça a duré 6 mois pour ma part. Puis là, j'ai vraiment été obligée de prendre la médication, chose que je voulais retarder à tout prix. Puis finalement, j'ai réessayé ensuite de me trouver un emploi parce que je me questionnais, est-ce que j'y retourne? Est-ce que je vais vivre le jugement? Est-ce que je vais avoir de la difficulté? Tu sais, on a l'impression qu'on est comme piané une fois que c'est arrivé.
Ouais.
Moi, je suis dans la jeune trentaine, là, donc pour moi, la carrière, c'était super important. Puis finalement, j'ai commencé à appliquer dans d'autres grandes entreprises. Puis je me suis rendu compte que ce qui m'avait amené en dépression puis en épuisement, le voyagement, moi, je suis sur la rive sud, je me déplaçais dans le centre-ville, j'ai un jeune enfant. Tout ça, là, ça me prenait tellement d'énergie. Puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux?
Mm.
Puis en fin de compte, j'ai vécu un événement qui est assez dramatique dans ma vie. J'ai perdu ma mère. Puis ça m'a donné le coup qui me manquait pour prendre la décision que je retournais pas en entreprise, que je partais à mon compte. Puis c'est ce qui a vraiment tout changé là, de mon côté parce que je savais que c'était quasiment inévitable de retomber là-dedans tellement que l'anxiété de performance et tout ça pour moi en entreprise... C'était comme plus fort que moi, là.
Ah oui. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à votre compte et vous êtes tout à fait bien. Vous diriez que ça a été la meilleure décision que vous avez prise?
Absolument. Ouais. Moi, c'est ça qu'il me fallait, là. Je veux dire...
Tellement gagné en flexibilité, là. Ouais. En gestion d'horaire, puis en stress de transport, puis ralentir un peu le rythme.
Ouais.
Puis on se dit aussi que tout ce qu'on investit quand on est pour un employeur, comme vous dites là tout à l'heure, une adrénaline, là. Moi, c'est une drogue, là, tu sais. Mais là, c'est qu'on le donne, on le donne, on le donne, mais la reconnaissance, elle n'est pas toujours là. Tandis que quand on travaille à notre compte, en tout cas pour ma part, là, je me dis, ben en fait, le retour, il est pour moi, tu sais. Donc, oui, pour ma part, ça a été vraiment une épreuve super difficile, mais ça a été hyper bénéfique. Puis le repos, comme disait monsieur, le repos obligé, le repos qu'on se permet, parce que le premier mois est tellement difficile. Moi, pour ma part, je ne l'acceptais pas. Et mon psy m'a dit, je te donne pas ton étampe d'arrêt de travail tant que, ben le vrai arrêt de travail, là, dans le sens, il dit, oui, tu es en arrêt médicalement, mais dans ta tête, tu ne l'es pas. Puis moi, je vais te donner le système d'arrêt de travail la journée où est-ce que tu vas être capable de dire, moi, je reste couché, je fais rien parce que je suis malade. Puis effectivement, ça a été long, mais une fois que j'ai réussi à faire ça, à faire le cheminement, ben j'ai été capable de décrocher. Puis je dirais que tous ceux qui passent par là, ben effectivement, une fois qu'on l'accepte, je pense que...
Mais ça, sincèrement, ce que vous dites, Audrey, je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans ce que vous dites. Moi, j'ai la grippe 5 jours pendant l'hiver, puis je me peux plus d'être couchée dans mon lit. J'ai l'impression que la vie est en train de se passer à côté de moi, puis que, je veux dire, on est mal faites de ce point de vue-là. Êtes-vous d'accord?
Absolument. Ouais. Oui, puis surtout, tu sais, je pense aux gens qui sont dans la trentaine, début quarantaine. Moi, je me suis obstinée à vouloir persévérer dans une carrière qui peut-être n'était pas la mienne. Mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choix. Des fois, on veut tellement, on a un focus, on garde le cap, puis on s'en rend malade. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est peut-être justement l'arrêt de travail permet énormément de se recentrer puis de réfléchir aux autres possibilités parce que quand on est dans l'action puis qu'on est épuisé, on peut pas faire cette réflexion-là. Donc, des fois, c'est vraiment pour le mieux.
Eh ben, super. Fait que là, vous faites quoi, là, Audrey, maintenant? C'est quoi votre entreprise? Vous êtes à votre camp?
Oui, je suis à mon compte. C'est APH Stratégie. En fait, moi, ce que je fais, c'est que pour les petites entreprises, les petites PME, j'intègre des outils technologiques, tout ce qui est gestion de projet, gestion de productivité, tout ce qui est aussi comptabilité. Donc, je donne de la formation à plusieurs endroits et dans les entreprises. Donc, pour aider les entreprises vraiment à augmenter leur productivité, à utiliser la technologie, à automatiser leur processus de travail parce que beaucoup sont encore dans le mode manuel.
Oui, alors APH Stratégie, là, si vous êtes à l'écoute, vous avez besoin des services d'Audrey. Ben le fun comme fait. Merci. Merci Audrey, bonne semaine. C'est un super beau témoignage. Oui. Lucie Dubé, vous êtes directrice générale de Midi 40. Évidemment, bon, Audrey est toute jeune.
Oui,
mais je trouvais ça intéressant qu'une jeune le dise aussi parce que c'est pas que des gens d'un certain âge ou qui ont 40 et plus non plus.
Puis ce qui est intéressant dans son cheminement, c'est qu'elle en a profité pour se réinventer.
Oui.
Tu prends le temps de faire une réflexion, tu te réinventes. Parfois, tu te réorientes.
Oui.
Alors, elle a consulté. Elle avait un psychologue pour l'aider à traverser cette épreuve, parce que c'est une épreuve, mais c'est formidable son cheminement. Puis elle a rebondi.
Ouais, voilà.
Elle a rebondi et la beauté, c'est que la carrière continue. La vie professionnelle, elle va se vivre autrement.
Oui, on va s'arrêter ici, très courte pause. On va revenir avec vos témoignages et commentaires. Roger sera notre prochain auditeur qui va nous raconter un peu comment il voit ça. 514-790-9850. Je vous demande si vous avez déjà vécu la difficulté de vous retrouver un emploi après avoir fait un burn-out, après avoir été épuisé professionnellement. À tout de suite, tout le monde. Oh, il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivent là et qui témoignent de la difficulté de se retrouver du travail ou de retourner à son travail, à son milieu d'emploi après avoir fait un épuisement professionnel. J'ai Monique qui me dit qu'elle a vécu un burn-out qui s'est éternisé pendant 2 ans après une consultation bénéfique avec un psy, un ergothérapeute en santé mentale. Elle est maintenant plus forte et plus heureuse, mais elle dit que ça a été impossible pour elle de retravailler dans son ancien domaine. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent bon, attendez, c'est pas si évident que ça. Évidemment, André, vous témoignez de conditions que vous aviez eues. Vous le disiez d'ailleurs que vous aviez eu la chance d'avoir une assurance salaire qui faisait que vous n'aviez pas ce stress-là. Mais j'ai, par exemple, des agriculteurs qui m'écrivent, là, qui me disent, essaye là, de faire un burn-out quand tu as le champ puis le train à faire. Puis c'est vraiment pas évident. On a Roger avec nous. Bonjour, Roger.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui. Et vous, comment allez-vous?
Bon. Ça va nécessairement mieux depuis les 3 ans. L'heure fatidique, quasiment moi, jour pour jour, que j'ai eu ce burn-out. Moi, je suis considéré, en fait, toute ma vie, j'ai été premièrement, je suis un TDAH. Puis je pense qu'on est prédisposé, les TDAH, à avoir ce genre de situation-là, malheureusement. Toute ma vie, j'ai été quelqu'un qui a été dicté à performer. J'ai 58 ans, je vais avoir bientôt 59 ans. J'ai évolué dans différents postes. J'ai toujours été assez comblé au niveau professionnel, mais comme tout le monde, on a des aléas dans la vie, maladies, enfin bref, je ne vais pas aller dans les détails. Et André a mentionné que c'est nos proches qui nous le remarquent beaucoup plus. Puis effectivement, je trouve que c'est moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé un soir, il était minuit, un dimanche soir, j'étais en train de travailler, puis je voyais mon écran en vertical. Et puis j'étais fixe dessus, puis je faisais rien. Jusqu'au moment que mon fils me dise, ben, papa, qu'est-ce que tu fais là à minuit à regarder ton ordinateur? C'est là que j'ai vu que il y a quelque chose qui se passait pas, puis pour des raisons X, Y, je suis tombé en burn-out, que le médecin, je suis allé voir un psychiatre, en fait, qui m'a carrément dit que la même chose qu'André, qu'il fallait absolument que j'arrête, parce que je m'en allais dans la mauvaise direction, si on peut dire.
Ah oui.
Et puis, moi aussi, je suis un peu émotionnel, excusez-moi, là. Ça me touche encore parce que je me rappelle de tout ça. Puis, vous savez, j'étais un gars intense, j'étais un gars qui travaillait. J'ai eu des grosses positions aussi. Puis, je pense que j'étais apprécié. Tu as toujours le souci d'en prendre plus puis de vouloir performer. Puis, probablement que ça m'est arrivé parce que j'ai trop voulu, trop essayé, trop voulu plaire aussi aux gens, parce que ça, c'est l'autre affaire que j'ai perçue avec le temps. Et puis, quand j'ai été arrêté pendant 7 mois, j'ai réessayé de retourner dans le domaine où j'étais. C'est eux qui sont venus, me recruter pour quelques expériences. Puis, 7 mois, c'est trop tôt. Je suis retombé la journée que je suis revenu d'un voyage là qui était en Europe. Puis j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Et j'étais un de ceux qui croyaient que c'était de la maladie pour les faibles.
Ah, êtes-vous sérieux? C'est vrai?
Oui, oui. Ouais. Je peux vous dire maintenant que ça m'est arrivé. Je peux comprendre très, très bien les gens. Puis comme patron, parce que j'étais patron d'employés qui ont tombé en burn-out eux autres mêmes. Alors, vous savez, la vie nous rend justice des fois où la vie s'équilibre.
La vie nous donne une leçon, c'est ça qui est arrivé aussi.
Moi, j'ai appris énormément dans ces 3 dernières années. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai appris beaucoup. Mais
et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Excusez-moi, Roger, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Ben, écoutez, pour répondre à la question de votre sujet, j'ai essayé de trouver de l'emploi.
Ouais.
À cause de mon âge. Moi, je suis convaincu que c'est mon âge. Puis, bon, évidemment, avec les positions que j'ai occupées, des personnes qui voulaient nécessairement avoir un gars comme moi.
Quel âge?
Ben, j'avais 50. Mettons que j'ai recommencé à chercher à 57 ans. Et puis, j'ai décidé autrement parce que j'avais quand même toujours été un intrapreneur dans les entreprises. Ben, j'ai décidé d'ouvrir une entreprise, de m'incorporer, puis de lancer une entreprise qui... il y a 2 ans, en fait, l'âge de 58 ans, c'est un peu atypique. J'ai changé de domaine complètement. Je suis dans le domaine de l'environnement, de l'écologie. et de la santé.
C'est très bon, là, c'est très in. Là. Vous avez entendu François Legault.
Ouais.
Rajoutez électricité, oui. Puis vous avez la triade payante. Là, ça devrait être corrigé. Hey, j'aimerais ça que vous restiez en ligne. On va prendre votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. J'aime ça, ce genre de témoignage-là. Puis ouais. Lucie, j'aimerais vous entendre là-dessus. Lucie Dubé, vous êtes de l'organisme Midi 40. Vous travaillez à promouvoir l'employabilité des personnes de plus de 45 ans. Roger qui dit 57-58, ça avait pas de bon sens. Mon âge est un facteur, est un frein. Puis on en a parlé souvent avec Guillaume ensemble de ce. Moi, j'en parle souvent parce que je trouve que ça a pas de bon sens que les Québécois qui ont plus de 50 ans ont de la misère à se trouver des jobs alors qu'on n'arrête pas de nous seriner avec le fait que, voyons, il y en a pas de monde pour travailler. Ouais. C'est
un gros paradoxe.
Hein? Ben, franchement, Lucie.
Ouais, ça devrait être logique, hein, qu'on aurait le goût de les embaucher. Mais en fait, il faut qu'ils se rendent à l'entrevue. Alors, à l'entrevue, ils peuvent vendre leur candidature, mais c'est le...
Mais est-ce qu'on dit qu'on a fait un burn-out en entrevue?
Eh bien, moi, je ne le conseille pas.
Mais non.
Je ne le conseille pas parce que la personne va se présenter avec ses compétences, puis parce qu'elle est apte à travailler, donc elle se présente avec son expérience, ses compétences.
Mais c'est donc, c'est vu comme un handicap?
C'est-à-dire que l'employeur, souvent, a peur aux récidives. Alors, il a un petit peu peur des... Quand il entend épuisement professionnel, burn-out, il dit, oups, problème, est-ce que la personne va récidiver? Donc, donc c'est mieux de ne pas en parler.
Mais si... T'es-tu d'accord, Guillaume?
C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut être prêt à ce que le sujet vienne sur la table à un moment donné. Parce que si on n'est pas prêt, ça risque d'être la catastrophe, malheureusement.
Tout à fait.
Mais je
parce
pense
c'est
que...
partir une relation
ben,
sur
ben,
des non-dits.
C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas mentir dans tout ça. Puis, veut pas aussi, il y a toutes sortes de, sortes de processus dans lesquels, à un moment donné, tu as un questionnaire médical, bon, qui peut peut-être aller trop loin parfois, là, ça c'est un autre sujet, mais qui va nous amener à parler de notre condition physique.
Non, mais c'est un bon sujet, là, c'est connexe.
Mais c'est parce que...
Est-ce qu'on a le droit de nous demander ça, d'ailleurs? Un patron potentiel peut-il nous dire, avez-vous déjà été...
Il y a des vrais débats là-dessus et c'est pas clair. C'est pas clair parce que, bon, il y a une jurisprudence, il y a des situations, on va dire, faut faire attention de ne pas aller trop loin dans un questionnaire médical. Il y a d'autres décisions qui vont dire, entre autres, il y a une décision sur un préposé aux bénéficiaires qui n'avait pas déclaré avoir fait un burn-out et prendre la médication, qui éventuellement avait été congédié, le congédiement a été retenu. Mm-hmm. Dans d'autres cas, on voit que les organisations se font taper sur les doigts. Il y a le cas célèbre de l'Université Laval, mais c'est pas clair.
C'était quoi l'Université Laval, le rappel?
C'est-à-dire qu'il y avait eu toutes sortes de questions dans un questionnaire qui était excessivement large.
C'est ça, ouais.
Et je pense que bon, ça avait fait la une là, pendant un petit bout de temps.
Il faut faire une distinction entre si l'employeur nous pose la question, on doit le dire.
Ouais.
Mais si l'employeur ne nous pose pas la question, il n'est pas nécessaire de mettre ça de l'avant parce qu'effectivement, on va nuire à notre embauche.
Mais moi, ma question, c'est est-ce que l'employeur a le droit de demander si on a fait un burn-out?
Spécifiquement, c'est difficile, mais qui va lui dire qu'il n'a pas le droit de le faire? C'est là où ça devient délicat, c'est-à-dire que la personne qui
est dans un
processus de sélection à un moment donné, moi, je pense que toutes les fois où, au cours d'une entrevue, on est tombé sur ce sujet-là, c'est parce que la personne, à travers son récit...
Le montrait.
Puis, de toute façon, moi, je pense qu'il y a un élément positif là-dedans, parce que les gens apprennent tellement sur eux-mêmes, sur leurs limites, sur leurs capacités, sur comment agir, puis aussi, des fois, dans des postes de gestion, une fois qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, ils sont de meilleurs gestionnaires. Je pense qu'il faut, nuancer.
Moi, je trouve que ça ne se demande pas.
Ça ne se demande pas directement.
Comme ça ne se demande pas de dire à une femme, avez-vous l'intention d'être enceinte?
Non.
Oui, mais Isabelle, mais ça ne se demande pas.
Avez-vous déjà eu le cancer? Franchement, tu
Mais dans les faits, l'employeur le demande. Donc, il faut que la personne se prépare à comment je réponds à la question. Alors, moi, je me dis, si l'employeur demande, est-ce que vous avez fait un épuisement? Oui, j'en ai fait. Oui, j'ai fait un épuisement. Je me suis retirée du marché du travail pendant X temps. Et maintenant, je suis apte au travail. Et là, je vais parler de mes compétences et de mon aptitude au travail.
Ce qui serait dangereux,
pour le rassurer, pour rassurer que je suis actuellement tout à fait apte.
Ce qui est dangereux, là, c'est quand quelqu'un te parle d'une situation comme celle-là, tu te rends compte qu'il n'y a aucun apprentissage qui a été réalisé, que les conditions ou que le non-respect de ses propres limites est encore présent. Mais moi, dans la plupart des cas où c'est tombé sur le sujet, parce que je n'ai jamais posé cette question-là directement...
Toi, tu ne l'as jamais posé.
Ben, ce qui arrive,
t'es dans
c'est
le
que
milieu,
les gens, ben, c'est que les gens, à un moment donné, te racontent une histoire excessivement difficile. Ils ont quitté l'emploi, puis à un moment donné, ils réalisent qu'ils sont en train de te le dire. Bon. Fait que c'est eux, la plupart du temps, qui l'amènent. Parce que c'est un récit d'une carrière, c'est un récit d'une vie.
Puis c'est sûr qu'il y a des formulations qui transmettent un petit peu d'infos. J'ai déjà passé des gens en entrevue qui me disent, en tout cas, je sais vraiment aujourd'hui à mon âge, je sais ce que je veux plus. Fait que là, tu te dis, ah, OK, vous avez vécu quoi que vous vouliez plus?
La plupart des gens qui sont en recherche d'emploi, c'est toujours un défi de trouver un nouvel emploi. Et si un bug, un problème, une obsession, le burn-out pourrait en être une large, pourrait en être un autre, ou n'importe quelle autre particularité, c'est tellement présent dans la tête des gens qu'involontairement, ils mettent ça à table au moment d'une entrevue. Puis c'est de ça qu'ils parlent. Et ça, c'est l'erreur.
C'est pas une maladie infectieuse non plus, le burn-out. C'est pas une déclaration obligatoire non plus.
Je me rappelle pas d'avoir tiré la conclusion que la personne n'était pas apte à cause de ça.
Ben, tu étais intelligent, toi.
Mais parce qu'à un moment donné, moi, je pense que...
c'est très bon.
Merci, je vais le prendre, André.
Non, il voulait dire aussi, à part le fait que tu es brillant, Guillaume, il voulait aussi dire qu'il y a beaucoup de patrons qui ne le sont pas.
Il y a beaucoup de fausses croyances qui demeurent, Isabelle.
Non, curieusement, écoutez, je vais peut-être préciser que ma pensée des employeurs, c'est que les employeurs, fondamentalement, ça les intéresse pas. De savoir si tu as fait un burn-out, mais c'est quoi ta vie privée. Ils veulent savoir qui t'es, toi.
Combien tu vas rapporter?
Es-tu capable de faire la job? Es-tu motivé pour le faire? Vas-tu être un troublemaker? Ou bien là, si on va avoir la paix avec toi. Aussitôt qu'il y a
belle gestion, n'empêche.
André, le paradoxe, belles affaires.
Ça fait que l'employeur, à ce moment-là, est intéressé à prendre cette personne-là.
Mais avec des robots, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas d'émotion, il n'y a pas de problème.
Mais le paradoxe, c'est que c'est une maladie de gens performants. Les gens que je vois dans mon bureau, puis nous, on trie beaucoup. Les gens sur le volet, les gens que je vois dans mon bureau, là, c'est parmi les plus performants de la société.
En fait, ça serait un critère de sélection. Avez-vous fait un burn-out? Oui, je vous embauche.
C'est ça, exactement, c'est ça. On va à la pause, on revient tout de suite après.
En fait, elle est mieux.
Bonjour Henri, ça a l'air que vous avez fait un burn-out solide. Henri? Êtes-vous là? Henri? Ah, on a perdu Henri, je pense. Mais semble-t-il, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il avait fait vraiment un gros burn-out. Il voulait en témoigner. C'est peut-être un problème de ligne qu'on a. Si on peut, on le remettra en ondes. J'ai Chantal qui me dit qu'elle travaille dans l'industrie pharmaceutique. Elle est en arrêt de travail depuis 2 mois et demi. Elle recommence lundi et elle dit « Je me sens pas prête du tout. Je dors encore 10 à 12 heures par jour. » Mais mon médecin prend sa retraite la semaine prochaine. Avec un peu de chance, je vais peut-être trouver un autre médecin. Oups! Dans un an ou deux. Oui, Chantal est très consciente. Non, mais c'est ça, elle dit dans un an ou deux. Mais là, elle me dit, je me suis juré que si à mon retour, je vais moins bien, je démissionne. Elle dit, c'est pas vrai que je vais retomber au fond du baril et que je passe à travers encore maintenant que j'ai passé à travers ces deux derniers mois. On a Sébastien en onde. Bonjour à Sébastien.
Oui, bonjour tout le monde.
On vous écoute.
En fait, mon cheminement, c'est une combinaison là, justement de facteurs professionnels et personnels. Ça fait 3 ans que j'étais en travail. Mais en fait, 2 ans là avec le médecin qui m'a remis. Fait que ça fait 1 an là, techniquement que je suis de retour au travail. 1 an sur l'aide sociale par la suite. Fait que ça a été un cheminement très difficile. Mais c'est surtout pour vous parler de la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire, moi, je fais présentement ce qu'on appelle un programme préparatoire à l'emploi qui est avec Emploi Québec et Cap Emploi à Saint-Jérôme. Et c'est un groupe de personnes qui, on vit un peu les mêmes difficultés, mais l'objectif, c'est de un peu se redécouvrir à travers nos difficultés parce que, mon témoignage là sur comment ça s'est passé aurait pu ressembler à ceux qui ont parlé avant.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que j'irai pas dans le détail à ce niveau-là, mais...
Vous vous êtes retrouvés là-dedans, là, c'est ça.
Oui, et de se rassembler. Et on a 2 animateurs extraordinaires, là, Annick et Fred, pour ne pas les nommer, qui nous tirent vers le haut. On a cette solidarité qui s'est installée. C'est un programme de 9 semaines, 3 jours par semaine.
Puis vous faites quoi? Vous parlez de ce que vous avez vécu?
Il y a une part qui est basée sur, effectivement, là, le côté humain. Mais nos expériences de travail, évidemment... nos parcours, tu sais, il y a de tout, là. Mm-hmm. Il y a des gens en arrêt de travail, tu as des gens blessés, tu as des gens qui se questionnent sur leur vie. Bon, on a un peu de tout, mais le point commun, c'est qu'à un moment donné, dans l'inertie, on devient
prisonnier un petit peu de ça, puis on a juste besoin d'un petit coup, tu sais, de manivelle pour s'activer, puis le bénéfice qu'on en retire est quand même assez rapide. Et puis, au final, tu sais, on a déjà des gens du groupe qui ont trouvé des emplois à travers le processus dans les 4 dernières semaines.
Donc, c'est encourageant, Sébastien, c'est ça que vous nous dites aussi. Là.
Vous avez eu du support, c'est bien.
Puis ça demande qu'on bouge un petit peu, mais dans le fond, moi, ce que je voulais amener, c'est informez-vous les gens là, qui vivent des situations comme ça. Il y a des services avec Emploi Québec qui peuvent vous aider à vous supporter. Puis des fois, en groupe, on arrive à créer cette solidarité-là qui nous pousse vers l'avant, qui nous tire vers le haut.
Tout à fait.
Et on se redécouvre comme personne et puis on est prêt pour retourner travailler.
Merci, Sébastien. Je vais demander à Lucie Dubé de faire du pouce sur ce que vient de nous dire Sébastien, parce que à 12h40, vous faites ça, entre autres.
Exactement.
Hein?
Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe dans toutes les régions du Québec des organismes en employabilité qui peuvent aider les gens face à un retour à l'emploi. Et Sébastien l'a bien nommé, l'effet du groupe va aider. On voit qu'on n'est pas tout seul dans notre situation.
André, rapidement, il nous reste 30 secondes.
C'est très souhaitable de faire appel à ces services-là. Je l'ai fait moi-même. J'étais un gestionnaire de ces services-là, mais comme je suis devenu client, et ça a été indispensable à mon rétablissement.
Ah oui.
Et indispensable à mon retour à l'emploi.
Guillaume Desnoyers.
Le support est essentiel. Ouais. On ne fait pas ça tout seul, se relever d'un burn-out.
Ouais. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est ça qu'on dit ce matin à tous ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas une fatalité. Puis dites-vous bien, il y a un Québécois sur deux quasiment qui vit la même chose que vous. Fait que vous vous tournez vers votre collègue.
C'est une opportunité de développement dans une carrière.
C'est ça. Si c'est pas vous, c'est lui ou elle. Ouais. C'est ça. Alors, un petit peu d'entraide aussi, ça ferait du bien au travail. Merci beaucoup à vous trois. Guillaume Desnoyers, Lucie Dubé, André Etu, merci pour ce témoignage. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.
Merci.